Vous écoutez
RMC. Face à face.
Neila Latrousse.
8h32 sur BFM TV RMC, mon invité est Sandrine Rousseau. Bonjour Sandrine Rousseau.
Bonjour.
Vous êtes députée écologiste de Paris. Merci d'être avec nous ce matin. La crise agricole, de nouveau, à la une de l'actualité à 10 jours de l'ouverture du salon de l'agriculture et la colère des écologistes avec ce plan sur les pesticides qui est suspendu par le gouvernement. On va y venir dans un instant. D'abord, je voulais vous entendre sur la SNCF. Un TGV sur deux, objectif à tenir. Pas dit qu'il y a un TGV sur deux qui roule ce week-end parce que les contrôleurs maintiennent leur grève. Franchement, Sandrine Rousseau, on voudrait nous convaincre de continuer à prendre l'avion et la voiture. On ne s'y prendrait pas autrement, non ?
Oui, mais ce pourquoi se battent les contrôleurs, c'est pour des conditions de travail qui favorisent aussi le voyage en train. C'est-à-dire qu'avoir des contrôleurs dans les trains, avoir deux contrôleurs dans les trains, dans chaque train, c'est aussi une manière d'assurer la sécurité des voyageurs. Et en fait, c'est toujours la difficulté. Moi, je les ai toujours entendus avoir la même revendication, deux contrôleurs par train, mais depuis des années et des années. Et en fait, la question qui est posée à la SNCF, c'est quelle est votre politique de sécurité, en fait, des personnes et des conditions de travail de ces contrôleurs.
Mais ça, c'est la revendication de fond. Mais moi, je pense à, par exemple, la mère célibataire ce week-end qui doit envoyer ses enfants chez leur père, divorcé. Enfin, vous lui dites quoi ? Faut prendre son mal en patience ?
Non, je lui dis que je comprends que ce soit compliqué. C'est pour ça que je m'adresserai à la direction de la SNCF en disant mais négociez. Et vous devez absolument arriver à un accord avant ce soir.
Pourquoi c'est toujours pendant les vacances, les grèves ?
Ah ben ça, il faut demander à la CGT, à la CFDT, au syndicat. Mais je pense que c'est un rapport de force et que voilà, là, c'est en
vous soutenez, y compris pendant les vacances, dites pas quand même, du côté des syndicats, il y aurait une forme de responsabilité à éviter par moment de pourrir les vacances des Français, pardon pour le terme. Mais
je préférerais qu'il n'y ait pas de grève du tout. Voilà, je préférerais qu'il n'y ait pas de grève du tout. Après, s'il y
mais
en
c'est
a,
la responsabilité de la direction.
Il faut entendre les revendications dont je vous dis que moi, je les entends depuis des années et des années. Donc voilà, je pense qu'il y a un problème fondamentalement.
La SNCF dit aussi que la grève, ça coûte 500 millions d'euros. C'est toujours ça de moins qu'on investit dans le train. C'est un argument que vous entendez ?
Non, mais il faut que le train devienne un moyen de transport naturel, facile. Voilà. Pour ça, il faut aussi que les personnes qui travaillent dans le train puissent avoir des conditions de travail qui soient acceptables. Donc, c'est ça que la direction doit gérer. Elle a 24 heures pour gérer la situation, et bien qu'elle la gère.
Sandrine Rousseau, parmi les sujets sensibles du moment autour de la crise agricole, la question des pesticides avec le plan Ecophyto, en gros, c'est un plan qui vise à réduire de moitié l'usage des pesticides d'ici 2030. Ce plan est suspendu par le gouvernement le temps de trouver un accord avec les agriculteurs. Qu'est-ce que vous dites ? Une fois de plus, sacrifice de l'écologie au profit des agriculteurs ?
Les agriculteurs sont allés dans la rue avec leurs tracteurs.
Et donc ?
Parce qu'ils n'avaient pas de revenus et parce que un agriculteur se suicide en France tous les deux jours. Donc en fait, c'est une souffrance énorme. Enfin, je veux dire, énorme.
Ouais.
Énorme. Et qu'est-ce qu'on leur répond ? Bien sûr. Et qu'est-ce qu'on leur répond ? On leur répond plan Ecophyto. Enfin,
ils réclamaient pour certains d'entre eux.
Pour certains, pas pour tous. La Confédération paysanne, par exemple, ne demande pas l'arrêt du plan Ecophyto.
Mais les majoritaires, c'est la FNSEA et les jeunes agriculteurs, pour les citer.
Alors ça, c'est
certains dont on parle.
Ben ça, c'est un des sujets. C'est la manière dont les chambres d'agriculture, les votes à l'intérieur des chambres d'agriculture imposent le pouvoir de la FNSEA. Et qui est à la tête de la FNSEA? Arnaud Rousseau en l'occurrence, mais il y a eu d'autres représentants de la FNSEA qui étaient du même profil, c'est-à-dire des personnes qui finalement sont des tenants, sont des supporters et sont même ont des intérêts directs dans l'agro-industrie et dans l'agro-alimentaire. Donc en fait, on est dans une espèce de dialogue qui, à mon avis, est un dialogue de dupes entre, d'un côté, ceux qui négocient et qui sont pour l'industrialisation de l'agriculture et ceux qui ont des problèmes de revenus, qui sont, au contraire, les petites mains de cette agriculture.
Sur les pesticides, ce que disent à peu près tous les agriculteurs, c'est qu'il y a un décalage entre les interdictions qu'on prend en France et, par exemple,
et ça,
des tomates ou des poivrons
et ça, je suis
absolument d'accord. Et qui ont des taux de pesticides, qui utilisent même des pesticides interdits.
Non, mais ça, je le pose sans aucun doute.
On interdit.
Ça n'est pas possible d'importer en France des produits alimentaires, des produits agricoles qui ont été produits par produits interdits en France.
On interdit la tomate marocaine.
En fait, l'idée c'est que
est-ce qu'on interdit la tomate marocaine, par exemple ?
Non, mais on demande au Maroc de s'aligner sur les conditions françaises. Enfin, c'est le cas de toute voiture, par exemple, qui est importée. On ne pourrait pas importer une voiture qui ne remplit pas les conditions de sécurité et les normes européennes et françaises. Donc, il n'y a pas de raison pour les produits alimentaires que ce soit de la même manière. venir. Et oui, il y a un sujet autour de l'utilisation de produits interdits en France par d'autres pays qui augmente les rendements, mais qui met aussi en danger notre santé. Et donc, c'est pas possible que les agriculteurs français soient en concurrence avec eux.
Deux exemples. Le Métomyl, le Méthiocarb. Deux pesticides qui sont interdits en France et en Europe. On en trouve des traces dans des tomates, dans des poivrons qui proviennent du Maroc. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir le roi du Maroc, on lui dit, vous demandez à vos agriculteurs d'arrêter?
On n'importe pas des tomates qui contiennent des produits interdits en France, non. Et pour cela, il faut aussi, je le rappelle, des services vétérinaires en nombre, il faut des services de la DGCCRF, donc de la Direction de la Concurrence et des Fraudes à la frontière pour contrôler la nature des produits qui rentrent en France. Oui, ça n'est pas possible. Et c'est pas possible qu'en plus, on ait interdit ces produits en France au nom de notre santé et qu'on en absorbe parce que d'autres pays ne l'ont pas interdit.
Ça vaut
possible.
Aussi pour la viande, le soja sud-américain, les céréales, le poulet ukrainien.
Absolument, c'est pour ça qu'il faut absolument sortir du libre-échange en matière de produits agricoles.
Sur les pesticides, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, était ce matin sur RMC, il vous a directement adressé un message. Écoutez.
Sujet que manifestement, elle ne connaît pas. Qui a dit qu'on n'avait pas une stratégie de réduction et qu'on mettait en pause ça? Qui a dit qu'on n'avait pas déjà des programmes de recherche pour trouver des alternatives?
Il y a une pause.
Oui, sur un sujet principal qui est le sujet des indicateurs. Madame Rousseau pourrait reconnaître que pour les produits les plus à risque, qu'on appelle les CMR1, on a baissé de 95% dans le quinquennat qui vient de s'achever.
Est-ce que vous dites bravo le gouvernement, les pesticides les plus à risque ils n'existent plus aujourd'hui, ils ont été réduits.
Non, je ne dis pas bravo le gouvernement quand la seule mesure qui est annoncée aux agriculteurs, alors qu'encore une fois, il s'agit de 200 000 euros de dette en moyenne sur les exploitations agricoles, alors qu'un agriculteur se suicide tous les deux jours, alors que 27 fermes ferment par jour, et que là, la seule réponse qui est donnée, c'est la réduction du plan écophyto. Non, je ne
c'est
leur dis pas.
C'est pas la seule réponse. Il y a eu d'autres mesures sectorielles sur les viticulteurs, les éleveurs. Il y a eu un certain nombre
pas
de mesures.
Pas de nature à gérer la crise. Pas de nature à transformer l'agriculture pour assurer les conditions de vie et des personnes, des agriculteurs, mais aussi des ouvriers agricoles. Donc non, il n'y a rien eu de structurel sur l'agriculture. Et donc non, je ne leur dis pas merci. Et quand je vois à quel point ils essayent de trafiquer les indicateurs au nom desquels on sait Oui, ils essayent de faire en sorte qu'on sorte de l'indicateur qui est aujourd'hui reconnu dans le plan Ecophyto pour aller vers un autre indicateur avec des coefficients de toxicité, alors qu'on sait très bien que dans les produits chimiques et phytosanitaires, on découvre la toxicité et on découvre l'effet cocktail souvent beaucoup plus tard. Donc en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est en train de faire un tour de magie de Gérard Majax pour faire en sorte qu'il y ait un plan Ecophyto, mais pas avec les mêmes indicateurs. Et je dis à Marc Fesneau, on vous regarde là-dessus. On vous regarde et n'essayez pas de faire en sorte qu'en changeant les indicateurs, vous autorisiez plus de pesticides.
Sans doute, il y a une concertation qui est ouverte pour la.
Oui, avec les associations.
Avec les associations qui ont quitté la table.
Exactement.
Dans le même temps, est-ce qu'on peut être écologiste, dire quand il y a une concertation, on ne participe pas, on reste en dehors et puis on critique?
Alors, ils avaient une demi-heure pour négocier. Et par ailleurs, ils avaient une déclaration liminaire à faire sur justement la dangerosité de certains produits.
Les associations lâchent le combat. Elles désertent le combat.
Non, le ministère a refusé d'entendre cette déclaration liminaire. C'était une déclaration liminaire. On peut quand même l'entendre, cette déclaration. C'est quoi ce mode de discussion où c'est pas possible d'entendre les incontournables? Oui, je pense qu'elles ont eu raison de claquer la.
Vous évoquez le revenu des agriculteurs. Ce matin, je regardais sur le site d'un des grands distributeurs français. Le kilo de tomates rondes made in France, 4,39 €. Les mêmes venus du Maroc, 2,29 €.
Oui, on s'en sort pas. Problème.
Non, mais
c'est si
on interdit. Vous dites, celles qui sont produites avec des normes qui ne sont pas les nôtres, on les interdit. Mais dans le même temps, ça ne répond pas à la misère d'un certain nombre de Français qui se privent, qui réduisent leur nombre de courses, qui parfois ne font pas un repas sur deux et qui disent très bien les pesticides, mais j'ai le choix entre ne pas manger un repas sur deux ou bien manger des produits qui viennent d'ailleurs et qui sont pas produits à nos normes.
On va pas rendre les gens malades parce qu'ils sont pauvres, en fait. Ça n'a aucun sens. Donc là, dans 100 € de produits alimentaires achetés par les Français et Françaises, sur 100 euros de produits alimentaires, il n'y a que 6,5 euros qui vont aux agriculteurs. Ce qui veut dire qu'il y a 94 euros à peu près qui va à la grande distribution, à l'agroalimentaire, à la transformation. Je suis sûre que les Français et Françaises seraient tout à fait d'accord pour
qu'il y ait bien plus, hein, on est sur la tomate
qu'il y ait bien plus d'euros qui aillent vers les agriculteurs. Et je dis qu'on a un sujet autour de la grande distribution. Je rappelle que la grande distribution a installé ses centrales d'achat en dehors de France, en Belgique, en Hollande, en Espagne, pour échapper à la loi Egalim. Que fait le gouvernement pour imposer...
La loi qui régit les négociations entre les
industriels, fait le gouvernement,
la grande distribution et les producteurs. Pardon, je précise pour nos auditeurs la loi Egalim.
Voilà. Donc la loi Egalim, c'est la loi qui est censée permettre un prix qui est raisonnable pour les produits fabriqués en France. La grande distribution a installé ses centrales d'achat à l'extérieur de la France pour échapper à la loi française. Que le gouvernement n'ait aucune espèce de mesure de contrainte sur la grande distribution, qu'il n'ait aucune espèce de mesure de contrainte sur l'agroalimentaire, c'est cette faiblesse face aux puissants. Le gouvernement est faible avec les forts et fort avec les faibles. Et là, en l'occurrence, on doit absolument faire en sorte que la grande distribution respecte les lois françaises. Parce qu'il n'y a pas que la tomate marocaine. Il y a la grande distribution française qui ne respecte pas la loi française. Alors là, maintenant, le gouvernement a une responsabilité, c'est d'aller les chercher et de faire en sorte qu'ils respectent la loi.
Il y a des contrôles en masse qui ont été annoncés par Bruno Le Maire.
Non, mais il n'y a pas de contrôles qui seront efficaces si les centrales d'achat sont à l'extérieur de la France. Donc, imposer que les centrales d'achat, que les négociations se fassent à l'intérieur du territoire français selon les termes de la loi française, c'est le minimum que doit la grande distribution.
Ça aussi, Bruno Le Maire s'engage à ce que ce soit contrôlé. Emmanuel Macron...
Bruno Le Maire demande, Bruno Le Maire a toujours défendu le fait qu'il y ait une liberté complète de la grande distribution. Il s'est toujours opposé à ce qu'il y ait des taxes sur les surprofits de la grande distribution pendant qu'il y avait l'inflation. Il s'est toujours opposé au fait qu'il y ait la moindre contrainte sur les prix pratiqués par la grande distribution. Donc non, Bruno Le Maire, il fait des déclarations. Mais Bruno Le Maire, il ne fait aucune politique publique permettant de garantir et le pouvoir d'achat des personnes les plus faibles et de garantir le fait qu'il n'y ait pas de surprofits liés à une situation de crise. La France est en train de s'effondrer de sa pauvreté et Bruno Le Maire demande. Non, Bruno Le Maire doit agir.
Emmanuel Macron, le patron de Bruno Le Maire. Il reçoit cet après-midi les syndicats agricoles. C'est la première fois depuis le début de la crise. Sébastien Chenu disait, en fait, le président a peur de faire un mauvais salon. C'est pour ça qu'il les reçoit. Pour vous aussi, il assure juste d'être bien reçu au salon de l'agriculture. Il n'y a pas de prise en compte réelle de la souffrance des agriculteurs. Sébastien Chenu, je précise, député du Rassemblement national.
Le jour où Emmanuel Macron aura une prise de conscience de la souffrance de qui que ce soit, je pense que ce sera quand même une révolution en France. C'est-à-dire que je pense que son mode de gouvernement est précisément de ne pas comprendre qu'il y a une souffrance en France. Là, moi, je travaille actuellement sur les hôpitaux et particulièrement sur la psychiatrie dans les hôpitaux. Il y a un effondrement de l'hôpital public actuellement. Il y a des burn-out, il y a des gens qui ne trouvent plus aucun sens au travail. Les enseignants sont dans la même situation, ils ne trouvent aucun sens dans leur travail. Là, on est en train de s'effondrer. Et je pense qu'Emmanuel Macron est sourd à la souffrance des Français et que ça devient un problème national d'ampleur.
Avant de recevoir les agriculteurs, il y a cet hommage national à Robert Badinter à midi. Est-ce que vous y serez ?
Alors moi je suis chef de file sur un texte à l'Assemblée pour le groupe écologiste.
Donc vous n'y serez pas ?
Non, mais par contre je voudrais lui rendre hommage ici.
Il incarne
quoi ? Et précisément parce que je ne peux pas aller à cet hommage, je voudrais lui rendre hommage en disant que c'était... Il a permis que la France défende les valeurs qui sont profondément celles qu'elle affiche au fronton de ses mairies et qu'elle affiche dans sa constitution. Et en fait...
Liberté, égalité, fraternité.
Oui. Robert Badinter, c'est l'homme qui n'a pas suivi les sondages et qui a suivi des valeurs. Et je voudrais que la gauche reprenne ce chemin-là. Je ne pense pas qu'elle l'ait lâché, mais je pense qu'elle doit le réaffirmer. Nous devons, contre tous les sondages et contre toutes les opinions, à un moment donné, défendre les valeurs. Et c'est
là-dessus que nous... Il y aura des députés écologistes ?
Pardon ?
Vous n'y serez pas, mais
oui,
il y aura
des députés... Oui, il y aura Sandra Régol qui nous représentera.
Les Insoumis et le Rassemblement National sont persona non grata. La famille n'en veut pas dans cet hommage. Marine Le Pen et les siens n'iront pas, mais les Insoumis, ils vont quand même représentés par deux de leurs députés. Est-ce qu'on peut aller contre la volonté des familles ?
J'entends et je respecte la volonté des familles. Moi, je dis que c'est un hommage national et que les insoumis sont actuellement associés au Rassemblement national dans une espèce d'équivalence. Et en l'occurrence, je suis choquée par cette équivalence sur le point
politique.
Précis
là,
de l'antisémitisme. Oui, c'est pour ça que je dis que j'entends les familles. Maintenant, c'est un hommage national. Et donc,
ils ont le droit d'y aller.
C'est eux qui ont pris leur décision. C'est eux qui ont pris leur décision. Et je respecte toutes les décisions. Je respecte toutes les position là-dedans. Je dis juste, et vraiment je me permets d'insister là-dessus, RN et LFI, il n'y a pas un signe égal entre les deux. Le RN trouve ses racines, je le rappelle, dans un antisémitisme structurel, dans la collaboration, dans le déni du génocide des Juifs d'Europe. Il trouve, il y a un député dans l'Assemblée nationale qui a ouvert une librairie négationniste, c'est-à-dire qui vantait les mérites du nazisme. Enfin, je veux dire, le LFI n'a jamais fait quelque chose de cet ordre.
Pour la famille, c'est la même chose, mais la famille les met doigts d'eau.
Très bien, et je ne discute pas ça, mais je vous dis juste que là, dans le débat politique et dans le débat national, nous ne devons pas mettre un signe égal, parce qu'alors, c'est dangereux, parce que nous banalisons les idées d'extrême droite.
C'est ce que fait la famille de Robert Badinter ?
Nous banalisons le fait que le RN, que l'extrême droite égale l'extrême gauche.
C'est ce que fait la famille de Robert Badinter ?
Et par ailleurs, LFI n'est pas d'extrême gauche, c'est une gauche radicale, mais ça n'est pas d'extrême gauche, et ça c'est un débat.
C'est ce que fait la famille de Robert Badinter ?
Je pense que quand elle met un signe égal, eh bien, permet le fait qu'on puisse confondre les deux. On ne peut pas confondre les deux.
Donc, pour résumer, vous cautionnez le fait que les députés LFI aillent à l'hommage contre l'avis de la famille.
Je dis que c'est un hommage national et je dis que le RN et LFI ne sont pas les mêmes formations politiques, ils n'ont pas la même histoire, ils n'ont pas le même rapport à l'antisémitisme et que vraiment, là, on brouille tout le débat, débat national.
Les insoumis ont leur place à l'hommage national.
Les insoumis ont leur place à l'hommage national de Robert Badinter.
La réponse beaucoup plus claire. Aurore Berger, qui est la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre les discriminations, propose de supprimer les subventions aux associations qui auraient tenu des propos ambigus sur le massacre du 7 octobre en Israël. Être féministe, dit-elle, c'est dire les choses et c'est soutenir les femmes qui ont été mutilées le 7 octobre. Est-ce qu'elle a raison de clarifier ce point ?
Sur le 7 octobre, il y a eu un féminicide de masse. Sur le 7 octobre,
vous il n'y a pas d'ambiguïté. Vous dites, oui. C'est un féminicide de masse.
Oui, c'est un féminicide de masse. Il y a eu des violences sexuelles spécifiquement sur les femmes. Donc, il n'y a pas de doute sur ce qui s'est passé le 7 octobre.
D'autres ont été moins clairs que vous.
Peut-être. Mais par contre, commencer à mettre les associations sous le coup de ce qu'elles devraient dire ou pas dire, sous la menace de subvention en fonction de ce qu'elles disent et de ce qu'elles ne disent pas. Je rappelle que le droit à l'association, la liberté d'association, fait partie de nos fondamentaux de la République. Et qu'on peut ne pas être d'accord avec la position de certaines associations, mais qu'en fait, la liberté d'association est absolument fondamentale dans la Constitution française.
Et qu'en fait,
à chaque fois qu'on grignote les libertés publique. À chaque fois qu'on petit à petit, on se dit qu'il est naturel de mettre la pression, de faire du chantage sur les positions des uns et des autres, eh bien on renonce aux valeurs fondamentales de la France. Alors les associations doivent être garanties dans leur liberté d'association, de réunion, etc. Et en l'occurrence, Aurore Berger, quand elle dit qu'elle va couper les associations, qu'elle va couper les financements à des associations qui n'a pas eu des positions qu'elle attendait sur le 7 octobre, eh bien, je dis à Aurore Berger, discutez avec
elle. Elles ont dit, elles ont été ambiguës, elles n'ont rien dit en fait.
Rien dit.
Elles étaient absentes du débat. Vous dites féminicide de masse. Il a fallu les chercher, les associations féministes, pour entendre.
Elles n'ont pas nié. Elles n'ont pas nié non plus qu'il y avait eu un féminicide de masse. Et par ailleurs, je dis à Aurore Berger.
Elles n'ont rien dit.
Non, mais je dis à Aurore Berger, discutez avec elle, plutôt que d'agir immédiatement sur un levier financier, sur la menace, discutez. Voilà. Et que vraiment, je trouve que là, on est dans une atteinte permanente à ce qui est le fondement de la France, qui est la liberté d'association, d'expression, les valeurs. Et moi, ça finit par me toucher parce que je me dis, mais quand est-ce qu'on va avoir un sursaut républicain, là, en fait? Quand est-ce qu'on va garantir nos libertés? Quand est-ce qu'on va se retrouver sur les valeurs qui ont fondé notre France?
Sandrine Rousseau, il y a un autre sujet qui, je crois, vous touche particulièrement. C'est les accusations portées par une vingtaine de femmes, 22 femmes, contre le psychanalyste Gérard Miller. C'est le magazine Elle qui a révélé en premier les témoignages, accusations de viol, d'agression sexuelle. C'est l'un de vos soutiens politiques, Gérard Miller, très impliqué auprès de la France Insoumise. Je précise qu'il bénéficie évidemment, comme tout le monde, de la présomption d'innocence. Mais est-ce que vous vous doutiez, est-ce que vous aviez vu qu'il pouvait avoir un comportement problématique avec des femmes, parfois, souvent, jeunes?
Non, sinon je n'aurais pas accepté qu'il soit un de mes soutiens. Et quand j'ai lu cet article qui est sorti dans Elle, puis dans Mediapart, puis de nouveau dans Elle, voilà, j'ai été, je dois le dire, non seulement déçue, mais aussi très en colère. Très en colère, et c'est pour ça que dans l'article de Elle, je dis aux victimes qui ont pu voir les photos de soutien que voilà, je m'excuse auprès d'elles de ces photos, que je suis désolée de ce qu'elles ont pu voir et que ça me pose des questions. Mais parce qu'en fait, moi j'essaye de protéger les victimes, j'essaye de faire en sorte que non seulement leurs paroles soient entendues dans le débat public, mais qu'en plus, même leur santé à elles, qu'elles aillent bien, qu'elles se sentent à l'aise à parler. Là, je me dis que peut-être, quand elles ont vu ces photos, peut-être se sont-elles interrogées. Donc voilà, je leur dis, je vous soutiens. Je soutiens votre parole, je respecte votre parole et voilà, je suis de votre côté et de votre et je mènerai ce combat quel qu'en soit le coût.
À elle,
voilà.
Vous dites, je n'ai pas grand monde sur qui compter dans ce combat. Vous vous sentez seule aujourd'hui en politique? On n'entend pas les insoumis sur le cas de Gérard Miller, par exemple.
Je trouve que, mais on n'entend personne. En fait, je trouve que voilà, on est oui, c'est le combat féministe n'est pas perçu pour ce qu'il est, c'est-à-dire un droit humain fondamental.
8h53, Sandrine Rousseau, merci d'être venue à ce micro ce matin sur RMC, BFM TV.